Les trois forces. L'illusion de la fin de l'héritage. Le principal avantage de l'approche par le flux économique est qu'elle oblige à avoir une perspective d'ensemble sur les trois forces qui concourent dans tous les pays à la détermination du flux successoral et à son évolution historique. De façon générale, le flux économique annuel de succession et de donation, exprimé en proportion du revenu national, que nous noterons B, indice Y, est égal au produit de trois forces. B, indice Y, égale mu, multiplié par M, multiplié par bêta. Où bêta est le rapport capital-revenu, ou plus précisément le rapport entre le total des patrimoines privés qui seuls peuvent être transmis par succession contrairement aux actifs publics, et le revenu national. M est le taux de mortalité, et mu mesure le rapport entre le patrimoine moyen au décès et le patrimoine moyen des vivants. Cette décomposition est une pure égalité comptable. Par définition, elle est toujours vraie, en tout temps et en tout lieu. En particulier, c'est ainsi que nous avons estimé le flux économique représenté sur le graphique 11.1. Cette décomposition en trois forces constitue une tautologie, mais il s'agit, je crois, d'une tautologie utile, dans la mesure où elle permet de clarifier l'étude d'une question qui, sans être d'une complexité logique effroyable, a suscité beaucoup de confusion dans le passé. Examinons ces trois forces une à une. La première est le rapport capital-revenu-bêta. Cette force exprime une évidence. Pour que le flux de richesses héritées soit élevé dans une société donnée, encore faut-il que le stock total de richesses privées susceptibles d'être transmis soit important. La deuxième force, celle du taux de mortalité, M, décrit un mécanisme qui est tout aussi évident. Toutes choses égales, par ailleurs, le flux successoral est d'autant plus élevé que le taux de mortalité est important. Dans une société où chacun serait éternel et où le taux de mortalité M serait rigoureusement nul, l'héritage disparaîtrait. Le flux successoral B, indice Y, serait nul lui aussi, quelle que soit l'importance des capitaux privés bêta. La troisième force, celle du rapport mu entre la richesse moyenne au décès et la richesse moyenne des vivants, est également tout à fait transparente. Supposons que le patrimoine moyen des personnes en âge de décéder soit le même que celui de l'ensemble de la population. Dans ce cas, mu égale 1 et le flux successoral B, indice Y, est simplement égal au produit du taux de mortalité M et du rapport capital-revenu bêta. Par exemple, si le rapport capital-revenu bêta est égal à 600%, le stock de patrimoine privé représente 6 années de revenu national, et si le taux de mortalité de la population adulte est de 2% par an, alors le flux successoral annuel sera mécaniquement égal à 12% du revenu national. Si le patrimoine des défunts est en moyenne 2 fois plus élevé que celui des vivants, c'est-à-dire si mu égale 2, alors le flux successoral annuel sera mécaniquement égal à 24% du revenu national, toujours pour bêta égale 6 et m égale 2%, soit approximativement le niveau observé au 19e et au début du 20e siècle. On voit que le rapport mu dépend du profil par âge du patrimoine. Plus le patrimoine moyen tend à s'élever avec l'âge, plus le rapport mu est élevé et plus le flux successoral sera important. Inversement, dans une société où le patrimoine aurait principalement pour fonction de financer les années passées à la retraite et où les personnes âgées choisiraient de consommer au cours de leur retraite le capital accumulé pendant leur vie active, par exemple au travers de rentes annuelles ou d'annuités versées par leur fonds de pension ou leur capital retraite et s'éteignant à leur décès, suivant en cela la théorie pure de la richesse de cycle de vie, Life Cycle Wealth, développée dans les années 1950-1960 par l'économiste italo-américain Franco Modigliani, alors par construction le rapport mu serait nul, puisque chacun s'organiserait pour mourir sans capital, ou tout du moins avec un capital très faible. Dans le cas extrême où mu égale 0, alors par définition l'héritage a totalement disparu, quelles que soient par ailleurs les valeurs prises par bêta et m. D'un point de vue strictement logique, on peut parfaitement imaginer un monde où le capital privé aurait une ampleur considérable, bêta très élevé, mais où le patrimoine prendrait essentiellement la forme de fonds de pension ou de formes de richesse équivalentes s'éteignant au décès des personnes. Annuitized wealth en anglais. Richesse viagère en français. Si bien que le flux successoral serait rigoureusement nul, ou tout du moins très faible. La théorie de Modigliani donne une vision apaisée et unidimensionnelle de l'inégalité sociale, selon laquelle les inégalités de capital sont simplement la translation dans le temps des inégalités face au travail. Les cadres accumulent plus de réserves pour leur retraite que les ouvriers, mais de toute façon les uns et les autres consommeront leur capital d'ici à leur mort. Cette théorie a eu un grand succès pendant les Trente Glorieuses, à une époque où la sociologie fonctionnaliste américaine, notamment celle de Talcott Parsons, aimait elle aussi décrire un monde de classe moyenne et de cadres où l'héritage aurait presque disparu. Elle est encore aujourd'hui très populaire parmi les baby-boomers. Cette décomposition du flux successoral en trois forces, B indice Y égale mu, multiplié par M, multiplié par bêta, est importante pour penser historiquement l'héritage et son évolution, car chacune de ces forces incarne un ensemble significatif de croyances et de raisonnements, au demeurant parfaitement plausibles, a priori, au nom desquels on s'est souvent imaginé, notamment au cours des décennies optimistes de l'après-Seconde Guerre mondiale, que la fin de l'héritage, ou tout du moins une diminution graduelle et progressive de son importance, était en quelque sorte l'aboutissement logique et naturel de l'histoire. Or, nous allons voir que non seulement une telle disparition graduelle n'a rien d'inéluctable, comme l'illustre assez clairement l'évolution française, mais que la courbe en U observée dans le cas de la France est en réalité la conséquence combinée de trois courbes en U concernant chacune de ces trois forces, mu, m et bêta. C'est d'ailleurs le fait que ces trois forces aient conjugué en même temps leurs effets, en partie pour des raisons accidentelles, qui explique l'ampleur considérable de l'évolution globale, et en particulier le niveau exceptionnellement bas atteint par le flux successoral dans les années 1950-1960, à tel point que l'on a pu croire à une quasi-disparition de l'héritage. Nous avons déjà étudié de façon détaillée dans la deuxième partie de ce livre la courbe en U suivi par le rapport capital-revenu bêta dans son ensemble. La croyance optimiste associée à cette première force est tout à fait claire et a priori parfaitement plausible. L'héritage tend à perdre de son importance au cours de l'histoire, tout simplement parce que les patrimoines, ou plus précisément les patrimoines non humains, ceux que l'on peut posséder, échanger sur un marché et transmettre de façon pleine et entière par le biais du droit de propriété, perdent de leur importance. Cette croyance optimiste est tout à fait plausible d'un point de vue logique et elle imprègne toute la théorie moderne du capital humain, notamment les travaux de Gary Becker, même si elle n'est pas toujours formulée explicitement. Mais comme nous l'avons vu, les choses ne se sont pas déroulées ainsi, ou tout du moins pas avec l'ampleur que l'on imagine parfois. Le capital terrien est devenu immobilier, industriel, financier, mais il n'a en réalité rien perdu de son importance globale, comme l'atteste le fait que le rapport capital-revenu semble en passe de retrouver en ce début de XXIe siècle son niveau record de la belle époque et des siècles passés. Pour des raisons que l'on peut qualifier en partie de technologiques, le capital joue toujours aujourd'hui un rôle central dans les processus de production, et donc dans la vie sociale. On a toujours besoin, avant de commencer à produire, de pouvoir avancer des fonds, pour payer des bureaux ou des équipements, pour financer des investissements matériels et immatériels de toute nature, et bien sûr pour se loger. Les qualifications et les compétences humaines ont évidemment beaucoup progressé dans l'histoire, mais le capital non humain a également progressé dans des proportions équivalentes. Il n'y a donc pas de raison évidente, a priori, de s'attendre à une disparition progressive de l'héritage de ce côté-là. La mortalité sur longue période. La seconde force qui pourrait expliquer la fin naturelle de l'héritage est l'allongement de l'espérance de vie au travers d'une baisse du taux de mortalité M et d'un report dans le temps de l'héritage. On hérite tellement tard que cela ne compte plus. De fait, la réduction du taux de mortalité est une évidence dans le long terme. En proportion de la population, on meurt moins souvent dans une société où l'espérance de vie est de 80 ans que dans une société où elle est de 60. Et toute autre chose égale par ailleurs, en particulier pour un bêta et un mu donné, une société où l'on meurt moins souvent en proportion de la population est aussi une société où la masse de l'héritage est plus réduite en proportion du revenu national. En France, comme d'ailleurs dans tous les pays, on constate que le taux de mortalité baisse inexorablement au cours de l'histoire. Il était d'environ 2,2% par an au sein de la population adulte au 19e et jusqu'en 1900, avant de s'abaisser régulièrement tout au long du 20e siècle. Si l'on excepte évidemment les saignées dues aux guerres et qui sont ici masquées par le jeu des moyennes décennales, pour finalement se situer autour de 1,1%, 1,2% en 2000-2010, soit quasiment une division par deux en un siècle. Voir graphique 11.2. Mais il y aurait une erreur de raisonnement majeure à s'imaginer que cette force conduit inéluctablement à une disparition progressive de l'héritage. Tout d'abord, le taux de mortalité a commencé à remonter en France dans les années 2000-2010. Et d'après les prévisions démographiques officielles, cette hausse devrait se poursuivre jusqu'aux années 2040-2050, après quoi la mortalité adulte devrait se stabiliser autour de 1,4-1,5%. Cela s'explique mécaniquement par l'arrivée à l'âge du décès des générations du baby-boom, plus nombreuses que les générations précédentes, mais de même taille approximativement que les suivantes. Autrement dit, le baby-boom et la hausse structurelle de la taille des générations que ce phénomène a entraîné en France ont conduit à une réduction temporairement très forte du taux de mortalité en France, simplement du fait du rajeunissement et de la croissance de la population. La démographie française a ceci de plaisant qu'elle est extrêmement simple et permet donc d'illustrer clairement les principaux effets. Au XIXe siècle, la population était quasiment stationnaire et l'espérance de vie était d'environ 60 ans, soit une durée de vie adulte à peine supérieure à 40 ans. Le taux de mortalité était donc proche de 1/40, en l'occurrence environ 2,2%. Au XXIe siècle, la population, d'après les prévisions officielles, devrait de nouveau se stabiliser avec une espérance de vie de près de 85 ans, soit une durée de vie adulte de l'ordre de 65 années et un taux de mortalité en régime stationnaire d'environ 1/65, en l'occurrence environ 1,4-1,5%, compte tenu là encore de la légère croissance démographique. Sur longue période, dans un pays développé et démographiquement quasi stagnant comme la France, et où la hausse de la population provient principalement du vieillissement, la baisse du taux de mortalité adulte est de l'ordre de 1/3. Cet effet de remontée du taux de mortalité entre les années 2000-2010 et 2040-2050, lié à l'arrivée en âge de décédés des générations relativement nombreuses du baby-boom, est certes purement mécanique, mais il est important. Il explique en partie pourquoi le flux successoral s'est établi à un niveau relativement bas au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et pourquoi la remontée sera d'autant plus forte dans les décennies à venir. De ce point de vue, la France n'est pas le pays où cet effet sera le plus massif, loin de là. Dans les pays européens où la population a commencé à décroître significativement, ou n'est pas loin de le faire, du fait de la nette diminution de la taille des générations, en particulier en Allemagne, en Italie ou en Espagne, ainsi évidemment qu'au Japon, ce même phénomène va conduire à une hausse beaucoup plus forte qu'en France du taux de mortalité adulte au cours de la première moitié du XXIe siècle, et va mécaniquement beaucoup accroître le volume de transmission patrimoniale. Le vieillissement de la population repousse les décès dans le temps, mais ne les supprime pas. Seule une augmentation forte et continue de la taille des générations permet de réduire durablement et structurellement le taux de mortalité et le poids de l'héritage. Mais lorsque le vieillissement s'accompagne d'une stabilisation de la taille des générations, comme en France, ou pire encore, d'une baisse de taille des générations, comme cela est le cas de nombreux pays riches, alors tous les éléments sont réunis pour un flux successoral extrêmement élevé. Dans le cas extrême d'un pays où la taille des classes d'âge serait divisée par deux à chaque génération, car chaque couple déciderait d'avoir un seul enfant, le taux de mortalité, et donc le flux successoral, pourrait monter à des niveaux inconnus jusqu'à présent. À l'inverse, dans un pays où la taille des classes d'âge double à chaque génération, comme cela s'est vu dans de nombreuses parties du monde au XXe siècle, et n'a pas encore tout à fait disparu, notamment en Afrique, le taux de mortalité tombe à des niveaux très bas, et l'héritage compte peu, toutes choses égales par ailleurs. La richesse vieillit avec la population. L'effet mu multiplié par m. Oublions maintenant ces effets, importants mais en principe transitoires, sauf à imaginer à très long terme une population terrestre infiniment grande ou infiniment petite, liés à des variations dans la taille des générations, et plaçons-nous dans une perspective de très long terme où le nombre de personnes par génération serait par hypothèse totalement stabilisé. En quoi l'allongement de l'espérance de vie affecte-t-il vraiment l'importance de l'héritage dans une telle société? Certes, l'allongement de la durée de la vie réduit structurellement le taux de mortalité. En France, où l'on décédera en moyenne autour de 80 à 85 ans au XXIe siècle, la mortalité adulte se stabilisera à moins de 1,5% par an, contre 2,2% au XIXe siècle, quand on décédait en moyenne à guère plus de 60 ans. Cette augmentation de l'âge moyen au décès a mécaniquement conduit à une hausse similaire de l'âge moyen au moment de l'héritage. Au XIXe siècle, on héritait en moyenne à tout juste 30 ans. Au XXIe siècle, on héritera le plus souvent autour de 50 ans. Comme l'indique le graphique 11.3, l'écart entre l'âge moyen au décès et à l'héritage s'est toujours situé aux alentours de 30 ans, pour la bonne et simple raison que l'âge moyen à la naissance des enfants, ce que l'on appelle souvent la durée des générations, s'est établi de manière relativement stable autour de 30 ans sur longue période. On notera néanmoins une légère hausse en ce début de XXIe siècle. Mais le fait que l'on décède et que l'on hérite plus tard, implique-t-il pour autant que l'héritage perde en importance? Pas nécessairement, d'une part parce que la montée en puissance des donations a en partie compensé cet effet, comme nous le verrons plus loin. Et d'autre part, car il se peut que l'on hérite plus tardivement de montants plus importants, conséquence du fait que le patrimoine tente également à vieillir dans une société de plus en plus âgée. Autrement dit, l'abaissement tendanciel du taux de mortalité, inéluctable sur très longue période, peut être compensé par une hausse non moins structurelle de la richesse relative des personnes âgées, si bien que le produit des deux termes, mu multiplié par m, demeure inchangé, ou tout du moins s'abaisse beaucoup moins que ce que l'on aurait pu imaginer. Or ceci est précisément ce qui s'est produit en France. Le rapport mu entre le patrimoine moyen au décès et le patrimoine moyen des vivants a fortement augmenté depuis les années 1950-1960. Et ce vieillissement graduel de la fortune explique une part importante du mouvement de retour de l'héritage observé au cours de ces dernières décennies. Concrètement, on constate que le produit mu multiplié par m, qui mesure par définition le taux annuel de transmission du patrimoine, c'est-à-dire le flux successoral exprimé en pourcentage du patrimoine privé total, est nettement reparti à la hausse au cours des dernières décennies, en dépit de la baisse continue du taux de mortalité, comme le montre très clairement le graphique 11.4. Le taux annuel de transmission du patrimoine que les économistes du 19e et du début du 20e siècle appelaient le taux de dévolution successorale est relativement stable des années 1820 aux années 1910, autour de 3,3-3,5%, soit environ 1/30. On avait d'ailleurs coutume de dire à cette époque qu'un patrimoine se transmet en moyenne une fois tous les 30 ans, c'est-à-dire une fois par génération, ce qui correspond à une vision simplifiée, un peu trop statique, mais en partie justifiée de la réalité du moment. Le taux annuel de transmission a fortement baissé au cours de la période 1910-1950 pour se situer à guère plus de 2% dans les années 1950, avant de remonter régulièrement depuis lors pour finalement dépasser 2,5% en 2000-2010. Pour résumer, on hérite certes de plus en plus tard dans une société vieillissante, mais comme la richesse vieillit elle aussi, cela tend à compenser cet effet. En ce sens, une société où l'on meurt de plus en plus vieux est très différente d'une société où l'on ne meurt plus du tout et où l'héritage disparaît effectivement. L'allongement de la durée de la vie déplace l'ensemble des événements de la vie un peu plus loin, on étudie plus longtemps, on commence à travailler plus tard, et ainsi de suite pour l'héritage, le départ à la retraite et l'âge au décès. Mais ne modifie pas nécessairement l'importance relative de l'héritage et des revenus du travail, ou tout du moins beaucoup moins que ce que l'on imagine parfois. Le fait d'hériter plus tardivement peut certes obliger plus souvent qu'autrefois à devoir choisir une profession, mais cela est compensé par des montants hérités plus importants, d'autant plus qu'ils peuvent prendre la forme de donations anticipées. En tout état de cause, il s'agit davantage d'une différence de degré que de la rupture civilisationnelle parfois imaginée.